Bonjour, bienvenue dans un monde de plumes, de paillettes, de strass, de pinceaux, de houppettes. Ici, des carcans en duvet d'oie, là, des casques en queue de paon. Un soir, c'est un harem qui ondule autour d'une piscine et c'est Scheherazade qui nage avec des serpents. Le lendemain, c'est Cléopâtre qui fouette des esclaves au corps huilé en string pailleté. Ou alors, c'est Nini Patte en l'air ou bien la Goulue. C'est comme vous voulez, mais partout, du cancan, des faux culs, des jambes qui volent haut, très haut, parce que dans ce monde-ci, on ne marche pas, on vole, oui. Ce monde-là, vous n'en avez peut-être pas tous franchi les portes, mais vous le connaissez, évidemment. C'est le Lido, le Moulin Rouge, le Crazy Horse et tant d'autres. Des noms qui résonnent fort, scintillent en toutes lettres et en grand au panthéon de la culture française. Alors bien sûr, certains trouveront ça ringard, d'autres carrément vulgaire. N'empêche qu'elles sont incontournables, qu'elles semblent inoxydables, ces vieilles dames. N'empêche qu'elles en ont encore sous la botte et qu'on vient toujours les voir du monde entier. On paye pour le dîner, on paye pour le spectacle, on veut admirer les filles. C'est du rêve à bulles qui coule dans les coupes et on ne voit pas au-delà. Au-delà du lourd rideau de velours rouge, là, derrière, dans les loges, dans les coulisses, avant, pendant, après les représentations. Et pourtant, il s'en passe des choses. On s'en brise des chevilles et le rêve se casse aussi un peu les dents, parfois. C'est l'histoire qu'on va vous raconter maintenant. Alors ce matin, bienvenue au cabaret.
France Inter. Dans quel monde on vit ? Julia Foyce.
Dans quel monde on vit ? C'est le monde d'aujourd'hui raconté par ceux qui le vivent, qui l'observent et parfois les deux à la fois. C'est le cas ce matin avec notre invitée, Cathy Hier, bonjour.
Bonjour Julia.
Vous signez pour le hors-série de Cosette un très joli reportage sous le truc en plume. Vous vous replongez dans vos souvenirs de danseuse de cabaret.
Oui.
Vous l'avez été 10 ans et vous dites, à l'époque, vous disiez, mon métier c'est fantasme. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu irréel, que vous n'existez quand vous êtes danseuse que dans le regard et dans le désir de l'autre ?
Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une dichotomie dans ce métier. C'est-à-dire que la nuit, on représente, on joue un rôle, on est une créature. Et le rôle, c'est d'être une créature fantasmagorique, fantastique, extravagante. Mais la journée, on est une personne quasi normale parce que...
Oui, parce que les physiques sont pas tout à fait normaux.
Voilà,
enfin, je veux dire, rassurez-moi, c'est pas normal.
Mais c'est pas une question tellement de physique, c'est aussi le physique, vraiment le travail physique qu'il faut faire pour arriver. Parce qu'on se rend jamais compte, on pense tout le temps que les danseuses de revue sont des potiches, et pas du tout. En fait, ce sont des danseuses qui très souvent font de la danse classique depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, donc qui toute leur vie ont déjà travaillé leur corps, leur musculature, les fessiers, les abdos, les pectoraux. Alors les gens, quand ils viennent voir la revue, ils voient pas ça. Ils voient des plumes, ils voient des jambes, ils voient des seins.
C'est-à-dire qu'il faut pas avoir le travail, il faut pas avoir l'effort, parce que
voilà,
sinon il y a pas de rêve.
Mais quand même, ce sont des danseuses extraordinaires qui peuvent très bien passer du classique à la revue, à la danse contemporaine. Et ce sont des danseuses, voilà.
Avec nous en studio également ce matin, le photographe Manuel Brand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du beau portfolio qui accompagne cet article. Avant de rencontrer les danseuses que vous avez photographiées, comment est-ce que vous les imaginiez ? Comment est-ce que peut-être vous les fantasmiez ? C'était qui pour vous ?
Ben justement, j'avais un peu cette vision de quelque chose un peu ringard et peut-être un peu pour touristes. Et en rencontrant ces filles, j'ai justement vu des danseuses avec vraiment des corps très d'athlètes presque,
ouais,
d'athlètes incroyables. Et voilà.
Ce que... Vous les avez admirées du coup plus que si vous les aviez vues sur scène, c'est-à-dire ce travail-là, cet effort-là. Ça les rend hors normes ? Est-ce que ça les rend...
Justement.
Ouais, est-ce qu'elles impressionnent d'autant plus ?
Elles sont très impressionnantes à la fois au naturel. Déjà, c'est des très grandes filles. Mais quand elles sont
Et quand on dit très
grandes,
c'est quoi, par exemple ?
C'est plus d'un mètre 80.
C'est ça.
Et une fois en habit de scène, elles deviennent incroyables. C'est plus des femmes, c'est presque des personnages...
C'est ça.
Voilà, féeriques et incroyables, quoi.
Cathy Hier, vous vous décrivez dans les loges, juste avant la représentation en peignoir et limé, sur scène avec ce qu'il faut de résille et de trucs qui brillent. Et puis le lendemain matin, au coin de votre rue, en jogging informe et en grosse basket.
Ouais.
Mais où est-ce que vous êtes vraiment, vous, à cette époque-là ?
Partout. En fait, c'est un métier. Donc,
c'est dans cette capacité de changement que vous êtes, vous, aussi ?
Le métier de danseuse, c'est D'avoir un corps qui est comme un instrument pour raconter des histoires. Et donc la journée, ben je vis ma vie de femme qui normale, voilà. Et la nuit, je fais mon métier et pour faire mon métier, pour raconter des histoires, j'utilise mon instrument qui est mon corps, les costumes, le maquillage. Et mais j'ai pas l'impression, je suis quand même tout le temps moi qui me costume, qui me maquille pour faire mon métier.
Et où est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que c'est quand cet instrument il est au repos ou c'est au contraire quand il joue?
Ah bah la scène, quand il joue, ouais. Quand il jouit presque on pourrait dire. Parce que la scène c'est une jouissance extraordinaire que... Voilà, c'est
incomparable à tout
oui.
Le reste.
Ouais. Oui, c'est vrai que du coup on oublie tout le travail des fois qui peut être difficile. De la danse, ça peut être très difficile. Il y a beaucoup de douleurs physiques, musculaires.
Et de la fatigue.
Et le soir sur scène, on sent plus rien. Quoi, c'est l'adrénaline, c'est les endorphines qui prennent le pas et c'est une jouissance extraordinaire de faire de la scène.
À travers vos photos, Manuel Brand, on croise les regards et les beaux visages de Vanina, de Jessica, de Martha. Elles sont en tenue de scène assez flamboyante et puis au naturel, dans la rue, dans un parc ou dans une loge. Le contraste est assez saisissant. Vous, avec votre œil de photographe, où est-ce que vous les trouvez les plus belles et où les plus vraies?
Pour moi, la photo, c'est quoi le portrait? C'est toujours aller chercher le regard de la personne. Et c'est, pour moi, les deux sont vrais. La photo, c'est toujours... une vérité, et là, il y avait justement deux facettes de ces femmes. C'est ça que je trouvais aussi très intéressant, c'est-à-dire qu'elles étaient aussi... quand elle est mère, elle est très très juste, mais à la scène, elle l'est tout autant. C'est vraiment deux facettes, et justement, c'est un peu l'idée de l'article, c'est qu'elles sont femmes de deux manières différentes, tout en étant vraies dans les deux...
C'est ce qui les rend aussi incroyables et hors normes. Vous avez eu envie, Cathy Yerl, en racontant ce monde-là, d'aller au-delà du fantasme, justement. Pourquoi?
Bah justement, pour rompre un peu les poncifs.
C'était une façon de leur rendre hommage?
Ah oui. Ouais. De nous rendre hommage, oui, à ouais. Toutes, parce que je trouve que...
Parce que vous souffrez d'une image justement un peu
non, pas
superficielle,
du tout.
Un peu...
Mais je pense que c'est assez méconnu, et il y a beaucoup de poncifs qui viennent, je pense, du 19e siècle, où les filles qui faisaient de la danse de la revue, c'était des prostituées, ou avoir sa petite danseuse, c'était quelque chose... Maintenant, je veux dire, ça fait longtemps, c'est un vrai métier, on est professionnalisé, on a une couverture sociale comme tout le monde, et je pense que je voulais vraiment parler de justement, essayer de sortir de ces poncifs de filles qui sont là, juste elles sont nues sur scène, c'est pas vrai, non, il y a un vrai travail.
Alors on va aller sur scène et en coulisses avec vous ce matin, on va se glisser dans les dédales de couloirs qui partent de la scène, qui vont jusqu'aux loges des danseuses. On va les regarder, se regarder dans le miroir, vous nous direz ce qu'elles y voient. Et pour nous accompagner, bien sûr, il nous fallait un lover, il nous fallait une voix de velours, il nous fallait violet.
L'impression que toujours tu t'es là. T'as vu comme ça glisse. Pourtant tu m'as commis d'office. Mais c'est la fin pour moi du chemin de croix. C'est un bien beau séjour, bien mérité, je crois. Nous prime cher, mais c'est toi que j'ai dans ma chair. Plus les lambeaux du temps jadis, d'un temps naguère. Rends-moi un seul jour, à moi. Rends-moi une seule fois, à moi. L'impression que toujours tu t'es là.
Ah, je sais que l'oreille de certaines, et peut-être même de certains, vient de se décrocher à force de se pâmer, de rougir. Récupérez-la, s'il vous plaît, j'ai des choses à vous dire. D'abord que c'était Benjamin Biolay, bien sûr, qui chantait « Roma à mort », premier titre extrait de son album « Volver ». Et première pépite de la playlist concoctée ce matin pour vous par Elsa Béranger. Quand on vous dit qu'on pense à vous, hein ? D'ailleurs, venez, rejoignez-nous, écrivez-nous par mail, c'est à cette adresse, dans quel monde on vit, @radiofrance.com, ou bien sur Twitter, avec le hashtag « Dans quel monde on vit ». Même chose pour notre compte Instagram. D'ailleurs, si les coulisses de l'émission vous intéressent, si vous avez très envie de voir la tête de nos invités, en plus ce matin ils sont jolis, donc profitez-en. C'est là que vous pourrez les voir sur mon compte perso, une immersion dans l'immersion. Et puisqu'on parle d'immersion, ce matin on se glisse dans les coulisses d'un mythe dans le secret des cabarets avec le photographe Manuel Brown et Cathy Vert, l'ancienne danseuse, tous deux co-auteurs d'un beau reportage sur le sujet pour le hors-série de Cosette. Cathy Vert, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez travaillé.
Oui, j'ai bossé.
C'est très bien.
Pendant mes vacances.
Eh ben voilà, c'est comme ça. Vous allez nous prendre par la main, vous allez nous guider dans cet univers que vous connaissez bien avec d'abord une photo que vous avez choisie. Est-ce que vous pouvez nous la décrire s'il vous plaît?
Oui. Alors, c'est une photo que j'ai sortie de mes albums de fin des années 80, début 90. Donc, ça me représente. Je suis sur une scène avec sur la tête un petit casque rose pailleté avec des petites perles qui dégoulinent sur le front. J'ai de longs gants roses qui habillent les bras, un minuscule petit string rose à paillettes et puis un joli collier de strass qui descend entre mes deux seins nus. Et un dossard de plumes qu'on appelle une gabrielle, un grand dossard de plumes qui monte beaucoup plus haut que ma tête et qui descend beaucoup plus bas que mes fesses. Donc voilà, c'est une photo qui me plaît beaucoup parce que ça me rappelle plein de souvenirs, mais elle me plaît aussi surtout pour la place qu'elle occupe.
C'est-à-dire ?
Parce qu'elle est sur la table de chevet de ma mère, juste à côté de la Vierge Marie.
Oula !
Alors je trouve que... Moi qui ne suis pas croyante, c'est un très joli pied de nez à la religion, Madonna et la Madone. Et en même temps, je trouve que ça me touche énormément parce que c'est le symbole de l'acceptation de ma famille et de mon entourage pour ce que j'ai fait.
Quel a été le premier regard de votre maman quand vous lui avez dit « Maman, je vais être danseuse de revue ».
Non, et ma mère, elle a toujours suivi et elle a toujours eu un regard très admiratif. Et pourtant, je viens d'une famille du sud-ouest où il n'y a pas d'artiste, pas de danseuse, pas de danseuse nue et encore
mais
moins...
Mais vous parlez d'acceptation, ça veut dire que ça a été compliqué de faire accepter ça à vos proches ?
Non, pour moi ça l'est pas, mais je sais que pour des collègues et des copines ça l'est. Moi c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un entourage très compréhensif. Mais je sais qu'il y a des amis pour qui c'est plus difficile de dire alors que elles étaient promises, elles avaient fait un conservatoire, elles étaient médailles d'or du conservatoire de je ne sais où et tout d'un coup voilà maman je suis danseuse nue à Pigalle, bon c'est Moulin Rouge ou la Nouvelle Ève mais c'est pas
même,
super facile pour tout le monde.
Manuel Brown, vous regardez Cathy Yarl avec beaucoup d'attention. J'ai très envie de vous demander, si vous deviez la photographier, vous essayeriez de saisir quoi chez elle?
Alors tout d'abord, le portrait, c'est une rencontre.
Ouais.
Donc là, on s'est rencontrés tout à l'heure.
Oui, parce que effectivement, dans ce hors-série de Cosette, vous travaillez séparément, vous croisez a posteriori vos regards.
C'est deux regards sur un sujet qui se rencontre sur le papier. Pour revenir à votre question, je vois un beau visage, un très beau sourire,
c'est vrai.
Très pétillante. Si je devais la photographier, je pense que je referais la même photo qu'elle nous a décrite tout à l'heure.
La même
scène,
aujourd'hui. Mais là, vous avez un petit côté.
Je mettrais des plus grands fossiles, je crois.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, comme ça.
C'est le petit regret
que
vous avez. Alors justement, vous parlez des fossiles. Sur la photo, vos yeux ils sont un peu dans le vague sur cet instant-là. Vous avez l'air de planer. Vous étiez toujours heureuse sur scène, quoi qu'il arrive.
Oui.
Quoi qu'il arrive, on plane.
Oui.
Quoi qu'il arrive, on décolle.
Quoi qu'il arrive, la scène, on oublie tout. On oublie les douleurs, on oublie les chagrins.
Vous dites dans le papier que vous vous sentez désirable et intouchable.
Oui.
Ça veut dire que vous avez une position de quasi toute puissance à un moment donné sur les gens qui vous regardent. Vous êtes au-dessus ?
Non, pas au-dessus, parce que dans le cabaret, dans la revue, c'est le rapport avec le public est très interactif. On a un public dans les cabarets qui est très enthousiaste, qui est très qui est quand même assez proche. Il est jamais très loin. C'est pas le public du théâtre. Donc on se sent pas supérieur ou au-dessus. Mais par contre, comment on incarne un fantasme, une créature, quelque chose d'intouchable, comme Avatar au cinéma, quoi. Enfin, c'est un truc en... C'est la 3D avant la 3D, quoi. La revue.
Mais vous, à l'inverse, il vous inspire quoi, ce public? Vous racontez dans votre papier des cas remplis de testostérone qui font déferler chaque soir des centaines de touristes. Il y a quelqu'un qui vous appelle à un moment en loge, vous et vos camarades danseuses, et qui disent « Attendez, il y a des Australiens imbibés qui s'impatientent sur le trottoir. » Ça fait rêver, ça?
Ça, c'est les souvenirs de Nouvelle-Ève. Alors c'est vrai que il y a les touristes du monde entier viennent voir les petites femmes de Paris, hein. Oui. Faut pas se leurrer. Donc il y a beaucoup d'hommes qui viennent en se disant qu'ils vont voir les petites femmes de Paris, des femmes extraordinaires. Bon, en fait les petites femmes de Paris, c'est un métier, c'est un personnage, c'est voilà. Mais après il y a pas que ces gens-là. Enfin, je veux dire, c'est quand même très, il y a aussi des couples qui pendant une année ou deux années vont économiser pour venir à Paris, et ils vont aller voir la Tour Eiffel, ils vont aller au Louvre ou au musée d'Orsay, et puis ils vont aller au Moulin Rouge,
voir
ou à la Nouvelle-Ève, ou
au
Folies Bergères, et voilà, oui, voir des grandes filles. Mais du coup, je pense qu'ils se rendent compte assez vite au fur et à mesure du spectacle que ils voient pas des filles, parce que déjà il y a des garçons, il y a aussi des numéros de cirque, et puis il y a des des attractions, et ils voient en fait un monde fantasmagorique de créatures, de gens extravagants. C'est voilà, du travestissement de la réalité
ordinaire. Voilà. On va évidemment poursuivre notre exploration matinale, mais il nous fallait du son, une bonne bande son, la seule, l'unique, la voilà.
Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en plume, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coup de rein.
Et si seulement vous aviez pu voir le petit coup de rein que vient de nous faire Cathy Yarl, c'était magique. Une icône de cabaret, Zizi Jeanmaire, et son titre culte, Mon truc en plume. C'est la chanson que vous avez choisie, Cathy Yarl. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson ou cet artiste?
Moi, je vide ma plume et je plume le bitume. Ça, c'est la phrase qui arrivait juste quand vous avez coupé.
Ah zut!
Et je l'adore, cette phrase, je vide ma plume, c'est la plume. Et du coup, comme maintenant j'écris, mais c'est pas pour ça que j'aime cette chanson. Cette chanson, je l'aime parce que je trouve que justement, elle montre la porosité qu'il y a entre la danse classique et la danse de revue. Parce que Zizi Jeanmaire, c'était quand même une danseuse classique qui était l'épouse de Roland Petit, mais qui dansait au Ballet de Marseille. Donc, et ensuite, elle est venue à la revue, et Roland Petit a mis en scène... Thierry Outria, qui est en régie, vous en parlera mieux, parce que lui, il a dansé avec Zizi.
Il est directeur de scène au
Moulin
Rouge,
et qui
va nous rejoindre
tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, il sait. Mais donc voilà, j'aime beaucoup ce que ça représente. Puis voilà.
Alors, pour continuer à nous immerger avec vous dans cet univers-là, on vous a demandé s'il y avait un goût qui vous ramenait directement dans les coulisses, dans les loges. C'était celui de la cigarette. S'il y a une odeur, c'est celui de la laque, des parfums, des crèmes camphrées. Vous dites, quoi qu'il arrive, c'est explosif, tous les sens sont exacerbés.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ouvre tous les pores de la peau et il y a plein de choses qui
circulent,
c'est ça.
Déjà, la danse, c'est le physique. Alors bon, bien sûr, il y a le mental. Hein. Dans le physique, enfin, moi, je trouve que le corps et la tête, ça va ensemble, de toute façon. Mais c'est quand même un métier de sueur, de chair, de peau. Ouais. Qui transpirent, de muscles qui s'étirent ou qui sont douloureux. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout ce rituel du maquillage, parce qu'on rentre pas en scène sans maquillage. Je veux dire, le maquillage, c'est un costume, et c'est tout un art, en plus, dans le... Donc, il y a ces odeurs de maquillage, de laque, parce qu'on est obligé de... On se fait pas de brushing, de machin, tout ça, non. On se serre bien les cheveux, on fait un chignon, et par-dessus, on met des postiches, des chapeaux, des plumes. Et puis le goût de la cigarette, parce que moi, j'étais dans les années 80-90, et tout le monde fumait, et dans les cabarets beaucoup, parce que c'est la nuit. Ouais. Donc voilà, la cigarette, ça nous donnait un peu d'adrénaline, et puis c'était pas encore interdit.
Manuel Brand, vous ne connaissiez pas cet univers-là. Qu'est-ce que vous y avez ressenti en y posant le pied pour la première fois? Qu'est-ce qui, s'il y avait par exemple une odeur, une saveur ou une sensation comme ça qui vous y ramène?
Déjà, un voyage dans le temps, c'est quand même des institutions, on est quand même Moulin Rouge, 19e siècle. Donc il y a déjà cette histoire. On rentre dans un lieu où il y a une grande histoire, où se sont passées beaucoup de choses. Donc il y a déjà ça, il y a avec beaucoup de peintures d'époque et des reliques. Les coulisses, les petites loges de chaque fille, ces petites, d'ailleurs on le voit dans la photo, dans le sujet, c'est les petits effets personnels de chaque fille, avec pour le maquillage, les petites affaires, les petites photos épinglées au mur.
Est-ce que vous sentez cette explosion des sens dont parle Cathy Yerl? Est-ce que vous sentez que ça parle à l'ensemble du corps, ça parle à l'oreille, ça parle à la vue, ça parle à l'odorat, ça parle à tous nos sens? Est-ce qu'on est saisi comme ça quand on y va?
Oui, on est impressionné déjà parce que c'est par ces performances avec des corps incroyables, avec voilà, où c'est vraiment un engagement total. Mmh. Et du coup, ça se sent vraiment.
En tout cas, clairement et tranquillement, le corps exulte, la chair se libère et s'affiche, encore que ça n'a pas toujours été le cas. Alain Bernardin, mythique fondateur du non moins iconique Crazy Horse, raconte comment, au tournant des années 70, il a décidé de faire passer les filles au nu intégral. Écoutez.
J'avais 24 ans, on est assez naïf, et je ne pouvais pas du tout penser qu'une femme puisse se déshabiller en public. Ça m'a fasciné. Nous faisons le 7 octobre un cocktail qui réunira un jury d'artistes, d'écrivains, et en même temps des représentants de la préfecture de police et de la police mondaine, parce que nous allons leur présenter le nu intégral. Il existe toujours un vieux tabou, les femmes n'ont pas le droit de montrer leur système pileux.
Le nu intégral, c'est formidable, on est libéré de tout, pourquoi une pointe? On est né comme ça, c'est bien, évidemment on grandit, mais enfin c'est extraordinaire.
Now, la grande liberté. Évidemment, parce que les femmes ont tout le désir de montrer leur corps, les femmes qui font du spectacle veulent montrer leur corps entièrement, parce qu'elles ont d'ailleurs beaucoup plus de succès en montrant leur nudité totale.
La femme a envie de montrer son corps. Cathy Yerl, vous êtes d'accord?
Non, pas du tout, mais bon, c'est Monsieur Bernardin, c'était une autre époque. Voilà. Mais je pense que c'est pas une envie de montrer son corps, c'est juste que, en l'occurrence, la danse, l'instrument, c'est le corps. Alors si le corps doit être habillé avec un tutu et des plumes qui sont blanches, mais si le corps est un costume...
Vous souvenez de la première fois où vous vous êtes retrouvée nue ou presque, oui, devant un public?
Oui, je m'en souviens très bien.
Racontez-nous.
Il faut quand même se dire que avant d'arriver la première fois toute nue devant un public, on répète pendant des mois pour monter la revue. Moi, en l'occurrence, c'était à la Nouvelle Ève, donc j'ai répété pendant, je sais pas, 2 mois, je pense qu'on a dû répéter. Et donc les dernières semaines, on répète en costume. Donc devant une salle vide en costume, ça veut dire que les passages où on est
en costume,
nu,
ça veut dire nu quoi.
Bah pas tout le temps, parce qu'il y a des numéros où on est plus habillé que d'autres, ouais. et donc c'est parce qu'en fait il y a dans la danse de revue, il y a beaucoup de styles de danse. C'est-à-dire qu'il y a les pas de deux qu'on peut faire classique mais peut-être dénudé, mais il y a du French cancan où là par exemple, on est très habillé. On n'a pas du tout les seins à l'air, voilà. Et donc on répète quand même pendant tout un temps devant une salle vide, et ensuite quand le public arrive, et ben voilà, on est nu mais on est... C'est notre costume, quoi. On s'est habitué à notre costume.
Mais la première fois.
Eh ben la première fois, ça m'a fait ça. Ça m'a fait juste. Je me suis dit, ben voilà, je suis avec mon costume sur scène. C'est la première fois. Faut pas oublier que moi, en plus, dans les années 80-90, il y avait pas toute la pruderie qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que sur la plage, l'été, toutes les filles, elles étaient les seins nus. Même ma mère. Pardon. Maman, j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. mais je veux dire, il y avait quand même une liberté du corps, et le corps n'était pas forcément sexualisé parce qu'on était nus.
On va continuer à déshabiller ensemble les cabarets jusqu'à 10h. Mais d'abord, on n'a pas résisté au plaisir de vous faire entendre la voix de l'une des plus grandes figures de Broadway, Liza Minnelli, avec un classique du genre cabaret, évidemment.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour.
the day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Alors, c'est pas dans les habitudes de la maison, mais je vais vous raconter ce qui vient de se passer en off. Thierry Outria vient de nous rejoindre. Bonjour. Vous êtes directeur de scène depuis 25 ans au Moulin Rouge. Vous êtes entré comme danseur au Moulin Rouge il y a 40 ans. Et c'est ce que vous nous racontiez pendant qu'on entendait Liza Minnelli chanter. Vous l'avez rencontrée.
Oui, elle est venue chanter un soir au Moulin Rouge. Et ce qui était formidable, c'est que nous, comme nous travaillons au Moulin Rouge, on a dit, bah, tiens, on va venir assister. Comme le soir, c'était privé, on ne travaillait pas. Parce qu'elle avait vraiment son gala, elle toute seule. Donc on a dit, on va venir dans un petit coin, on va regarder la répétition. Donc on la voit pendant 2 heures travailler avec 2 magnifiques danseurs et transpirer. Et le son, la lumière, tout. Enfin, vraiment, elle travaille. Elle faisait un spectacle déjà l'après-midi. C'était pas marqué, quoi. Elle faisait vraiment son spectacle. Et elle sort de scène. Et nous, on est tous là en train de lui dire, oh, on vous aime, Liza, on vous aime. Et on ne pourra pas venir ce soir, mais on est venu en cachette. On vous a admiré, c'est extraordinaire. Donc on la voit sans maquillage, avec ses vêtements de répétition transparents, enfin la sueur de partout. Elle s'assoit avec nous et pendant 2 heures, elle a commencé à discuter avec nous. Je crois que ça lui faisait du bien aussi de se relaxer après toute cette tension-là. Et en fait, c'est elle qui nous posait des questions. C'est elle qui est intéressée par notre métier, en train de nous dire, mais vous faites 2 spectacles tous les soirs. Elle me dit, vous rendez compte de la chance que j'ai. Moi, je suis une vedette, donc je fais un spectacle de temps en temps à Las Vegas. Je
suis une vedette, donc je ne fous rien. Quoi.
Non, oui, c'était du genre ça. Elle était tellement humble. En fait, c'était nous qui avions un statut de vedette parce qu'on faisait au Moulin Rouge 2 spectacles tous les soirs au Moulin.
Merci beaucoup, Thierry Outria. Évidemment, on va continuer à vous raconter des histoires comme celle-là jusqu'à 10h en compagnie de Cathy Yerl et de Manuel Brand qui signe un très joli reportage dans le hors-série de Cosette. Ça s'appelle « Sous le truc en plume à la technique ce matin ». Anne-Laure Cochet à la réalisation, Romain Impertèche, Valentin Pérez et Johanna Hébert pour la coordination et la préparation de cette émission avec bien sûr les notables et notoires Elisa Bondarenko et Rose Bernard. Et paf !
Dans quel monde on vit ? Julia Boyce sur France Inter.
Donc je le disais, Thierry Outria, vous êtes directeur de scène au Moulin Rouge, autant dire que c'est avec vous qu'il faut se mettre bien. Si on travaille au Moulin Rouge, c'est ça? Vous coordonnez tout, vous chapeautez tout,
Non, non, c'était uniquement la partie technique dans les années 80. En 99, quand le montage de la revue s'est fait, il fallait coordonner tous les créateurs, quoi. C'est-à-dire, c'est à la fois les 2 metteurs en scène, Miss Doris Hogg et Ruggero Angeliti, parce qu'eux avaient conçu le spectacle. Et déjà en amont, les musiques de Pierre Porte et les lyriques de Charlie Level avaient été faits. Puis d'un seul coup, il faut à la fois mettre en place les 40 décors, il faut mettre en place les 1000 costumes, les 500 paires de chaussures avec le costumier. Il y a les danseurs qui arrivent. Pendant, quand on fait un montage, les danseurs qui arrivent, voilà. Donc mon travail à ce moment-là, c'était assis quelque part et essayer de coordonner tous les plannings, de coordonner tous ces gens.
C'est bien
voilà.
Ce que je dis, c'est voilà. Avec vous qu'il faut se mettre bien, voilà. Ah. Je suis désolée. Pardon, mais c'est quand même le cas.
Il n'ose pas le dire.
vous avez grandi au Moulin Rouge.
J'ai 41 ans de maison.
Voilà, 41 ans de maison. Est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier jour? Comment, pourquoi vous avez poussé la porte de ce cabaret?
En fait, j'étais à l'armée, je me souviens, et je me disais, je veux pas, j'avais voyagé beaucoup à travers le monde avec une petite compagnie de danse, et je me dis, j'ai envie de m'installer à Paris, j'ai envie d'avoir une vie familiale, parce que c'est ça, ce que disait Cathy aussi, c'est que on parle toujours du travail, mais il y a un moment aussi, on en a marre d'ouvrir des valises et tout ça, on a envie de se poser quelque part, et je me suis dit, ben, j'aime Paris, je vais essayer de trouver du travail à Paris. Et à l'époque, c'était un âge d'or, parce qu'il y avait tellement de cabarets, il y avait tellement d'établissements, que c'était fantastique. Donc, je prends un week-end, je quitte l'armée, j'arrive au Moulin Rouge et je dis, ben, j'aimerais bien auditionner tout ça. Écoutez, la maîtresse de ballet n'est pas là, mais si vous voulez bien, ben, regardez, venez voir le spectacle le soir. Et donc, je m'assois dans un petit coin, sur un petit siège. Et là, j'admire une revue qui s'appelait Follement à l'époque, avec, comme disait Cathy, c'est tellement exubérant. On vient voir un spectacle qui est unique, parce qu'on voit pas ça à la télévision, en fait, je veux dire, ni au cinéma. Peut-être au cinéma maintenant, en effet, grâce aux effets spéciaux, mais on vient voir des créatures, on vient voir des personnages qui sont un petit peu hors normes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec les lumières, il y a une odeur au cabaret, il y a une odeur quand même. C'est toujours émouvant.
Odeur de quoi pour vous ?
Ben, il y a une odeur, dans la salle, par exemple, la salle des clients, il y a une odeur de parfum, de femmes, il y a l'odeur du champagne,
sent la fête, quoi.
Ça sent la fête, voilà. Ouais. Ça sent la fête. Et donc on s'assoit, on regarde le spectacle et on se dit, pourvu que je sois pris, parce que je veux faire partie de cet univers-là. C'est ce qui s'est passé le lendemain à l'audition.
Et vous avez été pris. Cathy Yarl, vous vous rappelez de votre tout premier jour, la toute première fois où vous poussez la porte d'un cabaret?
Oui, je m'en souviens. C'est pareil, on a cette impression de déjà on quitte le monde réel. Moi, de toute façon, c'est ce qui m'a toujours plu, déjà depuis toute petite, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la scène, c'est que quand on arrive dans un théâtre ou dans un cabaret, on rentre dans un espace-temps qui est hors du temps, justement. Et donc là, on arrive, alors surtout là, par exemple, Thierry m'a invité au Moulin avant-hier, merci d'ailleurs, et ça faisait quelques années que j'y étais pas retournée, et vraiment de rentrer dans cette salle, on rentre, c'est comme si on rentrait dans un autre monde, c'est comme si justement on avait les lunettes en 3D du cinéma, et là tout d'un coup on est immergé, et le cabaret c'est ça, c'est une espèce de magie et de...
Alors en l'occurrence le spectacle que vous avez vu hier c'est Féerie qui existe depuis 18 ans, dont vous vous occupez Thierry Outria. Le Moulin Rouge lui est né en 1889, il a traversé le 20e siècle, il aurait pu mourir aux portes du 21e, mais non, parce que voilà entre autres ce qui lui a donné un sacré coup de jeune en 2001. Christina Aguilera qui chante sur la bande originale de Moulin Rouge, film de Baz Luhrmann sorti donc en 2001 avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Un vrai carton et un regain d'enthousiasme pour le cabaret dans Thierry Outria à ce moment-là.
Vous n'imaginez pas ce que ça a été, ce film Moulin Rouge pour nous. Je veux dire, ça a été comme un booster, vous savez, en dessous de la navette spatiale, ça décolle. Et depuis, surtout, ça a boosté le monde du cabaret en général. Mm-hmm. Parce que grâce à ce film, toute cette jeune génération qui ne connaissait pas, parce que c'est vrai que ça coûte cher, le cabaret, ouais. C'est la nuit. Je veux dire, les gens de 18 ans ne pensent pas forcément, ils vont peut-être voir un concert, ils vont peut-être au nightclub, mais on ne pense pas forcément le cabaret. On a l'impression que c'est une attraction pour les vieux, pour les gens qui ont aussi un pouvoir d'achat. Ce sont des soirées quand même qui ne sont pas données des fois à tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce film a montré aux gens ce que c'était que l'univers du cabaret. On parlait de fantasmagorie tout à l'heure, ou de fantasme dans l'Arctique. Voilà, on est dans la démesure. Et justement, tous ces jeunes, dès que le film est sorti en Australie, parce qu'il a débuté en Australie étant une production australienne, je veux dire, les gens sortaient du cinéma à Sydney et téléphonaient au Moulin Rouge en disant, nous venons de voir le film, on comprend bien que c'est une fiction et que sûrement que c'est plus comme ça maintenant, puisque c'est censé se passer en 1889 à la création, mais on voudrait réserver des places parce que dans 6 mois nous serons là, et ça a été comme ça sur toute la planète pendant cette année-là, ce qui fait que le film a été une chance pour nous incroyable.
Le Moulin Rouge reste bien en place, ainsi que le Lido, le Crazy Horse et tant d'autres. En revanche, les danseurs, à un moment donné, finissent par quitter la scène parce que pour eux, le temps passe. Vous avez dû arrêter de danser. À quel moment est-ce que vous avez pris une décision comme ça du jour au lendemain? Vous avez dit, bon, j'arrête, je peux plus?
Ça s'est pas passé comme ça, en fait, parce que moi, j'étais sur scène encore, j'avais 35 ans et j'étais capitaine. J'étais aussi remplaçant soliste, chanteur et tout ça. Donc, soliste, j'avais une place qui était importante pour la continuité du spectacle. Voilà. Mais je me disais bien, j'ai 35 ans. Moi, mon fils avait 12 ans à l'époque. Je me disais, pourvu que je puisse continuer encore.
Donc, aller à 35 au moins ans, on est vieux, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, à 35 ans, ouais. On est vieux. C'est vrai qu'on est vieux pour la danse en général, hein, parce ouais. que le corps est usé. Mais en fait, l'assistante chorégraphe avait décidé, elle, de changer de vie. Donc, elle a dit au patron, mais moi, je vais quitter je quitte le moulin. Et donc, comme j'étais capitaine des danseurs, on m'a demandé si je voulais prendre la suite. Donc, j'ai dit, mais prendre la suite, ça veut dire aussi quitter la scène, quoi. Ouais. On n'est plus sous le feu des projecteurs et tout ça. Donc, c'était une décision qui n'a pas été facile à prendre. Mais en même temps, si vous voulez, je me suis dit, c'est peut-être une chance pour moi de rester dans cette belle maison que j'aime ouais. et qui m'aime aussi. Voilà. Donc, le jour où je suis passé de l'autre côté, c'est vrai que j'étais plus sous le feu des projecteurs, mais comme je continuais d'entraîner à la fois les danseurs et m'occuper de toute la troupe à ce moment-là, et je savais pas encore que j'allais passer directeur de la scène. J'avais même pas ce rêve-là, quoi. Mais ce qui était extraordinaire, c'est de se dire, eh bien, on n'est plus dans la lumière, mais on a un travail important puisqu'on forme les autres.
Cathy Yarl, on sent dans votre reportage quand même cette peur de vieillir. On voit, vous racontez des filles qui scrutent leur image dans le miroir. Vous-même, vous regardez vos seins pour voir s'ils tombent ou s'ils tiennent
oui,
toujours.
Tous les matins, tous les soirs, je les regarde. D'ailleurs, je fais que ça. Non, c'est pas vrai. Mais moi, par contre, j'ai eu la chance de. J'ai pas peur de vieillir. Je pense pas que les filles ont peur de vieillir. C'est qu'à un moment donné, on sait que c'est pas une peur physique. C'est physique, je veux dire, d'esthétique. C'est une peur plus où on se dit, est-ce que le corps va suivre?
Parce que oui, parce qu'il fatigue. C'est vous raconter les pansements sur les pieds le soir quand vous rentrez chez vous. La mâchoire qui est crispée à force d'avoir souris, c'est des adducteurs qui font mal, on commence à avoir le corps qui...
Donc à un moment donné, il faut, ben comme les sportifs de haut niveau, hein, je dirais à 30, 35 ans, ils pensent à une reconversion.
Mais et pour le coup, des seins, ça c'est vrai, parce que vous racontez que si les seins tombent, on ne peut plus danser seins nus, et donc c'est quelques centaines d'euros de moins sur la fiche de paye.
Alors ça dépend des cabarets, moi je sais qu'il y a des cabarets, enfin moi de mon temps, qui les nus étaient payés plus, mais par exemple celles qui faisaient le cancan étaient payées plus, les nus ne faisaient pas le cancan, ou si on faisait les deux, enfin il y a des arrangements. Mais c'est vrai que si on est danseuse nue, si on a les seins qui commence à regarder les chaussures, ben voilà quoi, c'est fini.
On parlait de ces lieux chargés d'histoire et c'est vrai que les décennies passent, certaines choses ne changent pas. Dans ce que vous écrivez, Cathy Yarl, on reste assez proche en fait du texte que vous avez choisi ce matin. Vous allez l'entendre, c'est un extrait de Music Halls de Colette tiré des Vrilles de la Vigne et il est lu par Caroline Osterman.
Même cadre, on répète la revue. Une revue comme toutes les revues. C'est l'internement, de 1 à 7 heures, de tout un pensionnat, pauvre et voyant, bavard, empanaché, grand chapeau agressif, bottines dont le chevreau égratigné bleuit, jaquette mince qu'on réchauffe d'un tour de cou en fourrure. 13 danseuses anglaises se démènent avec une froide frénésie. Elles dansent, dans cette demi-nuit des répétitions, comme elles danseront le soir de la générale, ni plus mal, ni mieux. Elles jettent vers l'orchestre vide le sourire enfantin, l'œil aguicheur et candide, dont elles caresseront à la première les avant-scènes. Une conscience militaire anime leur corps grêle et dur jusqu'à l'instant de redevenir le portant franchi des enfants maigres et gais, nourris de sandwichs et de pastilles de menthe. Au promenoir, une camaraderie de prisonnières groupe les petites marcheuses à 3 louis par mois, celles qui changeront 6 ou 8 fois de costume au cours de la revue. Autour d'un guéridon de bar, elles bavardent comme on mange, avec fièvre, avec gloutonnerie. Plusieurs tirent l'aiguille et raccommodent des nippes de gosses. Une boulotte camuse aux yeux luisants, costaude, courtaude, coup d'une main preste et professionnelle, en bavardant âprement. Ils vont encore nous coller une générale à minuit et demi, comme c'est commode. Moi que j'habite au Lion de Belfort parce que mon mari est ouvrier serrurier. Alors vous comprenez, la générale finit sur les 3h30, peut-être 4h. Et je suis sûre de rentrer sur mes pattes, juste à temps pour faire la soupe à mon mari qui s'en va à 5h30. Et puis après, les deux gosses qu'il faut qu'ils aillent à l'école. Celle-ci n'a rien d'une révoltée d'ailleurs. Chaque métier a ses embêtements, n'est-ce pas ?
Chaque métier a ses embêtements. Manuel Brand, vous avez photographié des hommes politiques, des écrivains, des musiciens. Qu'est-ce que les danseurs ou les danseuses de cabaret ont de spécifique, finalement?
Il y a un lien entre la photographie et le spectacle. On parle de tableaux dans les cabarets pour chaque scène. Il y a la lumière, la mise en scène, la gestion de l'espace, le cadrage qui est le spectateur. Donc il y a vraiment un lien très fort entre les deux.
Est-ce que ces filles-là, qui ont l'habitude d'être regardées, désirées, admirées, du coup se laissent photographier plus facilement, se donnent plus facilement?
Oui.
Je sens que j'ai posé une bonne question.
Tout à fait. Justement, sur ces deux facettes, en habit de lumière, oui, elles sont hyper faciles à photographier, il n'y a quasiment rien à faire. Et donc mon travail de photographe, c'est à la fois des fois de déconstruire une image ou de la construire. C'est un peu suivant, c'est un peu les deux des fois.
Et le fait de se montrer du coup à nu, parce qu'en tenue de ville, est-ce que ça a été compliqué pour elle?
Ça a été beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. On a dû négocier pour les photos habillées. C'était beaucoup plus compliqué. Parce que ça cassait un peu le mythe. Et c'était la peur de certains cabarets, c'était qu'on voit que c'est quand même des femmes.
Ça, c'est normales. La peur des cabarets.
Voilà, c'est ça.
Et c'est vrai que les filles aussi, on est quand même tellement habitués à construire notre image sur scène. Et donc, cette image construite sur scène, on est prête à la donner au photographe. Par contre, une image naturelle, ça, c'est là qu'on se sent à poil, quoi.
On a plus de mal. Alors là, on parle de cette passion qui est la vôtre depuis quasiment une heure. Thierry Outria, vous le disiez tout à l'heure, vous ne dansez plus. Ça vous manque?
Ça me manque, oui. Ça manque parce que, comment dire, la scène, comme disait Cathy tout à l'heure, c'est tellement magique de sentir les lumières en face de vous. Et nous, les gens pensent que quand on est sur scène sous le feu des projecteurs, on ne voit pas le public. Mais au Moulin Rouge, la proximité, les gens sont autour de nous. Ce qui fait qu'en fait, quand on est sur scène, on distingue chaque visage, on voit les expressions, on voit les bouches ouvertes, on voit les yeux émerveillés. Donc ça vous donne une pêche tellement incroyable que c'est sûr que, je veux dire, ça vous accompagne et ça soulage un petit peu le travail parce que c'est tellement facile de travailler quand vous avez déjà des gens ébahis devant vous, émerveillés, qui crient, qui se lèvent, qui applaudissent. Donc on a cette chance-là, oui, c'est vrai.
Alors je ne sais pas si ça va applaudir de l'autre côté des postes de radio, mais sait-on jamais, la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même danser un petit peu maintenant, ne serait-ce qu'intérieurement, ou juste faire la tête, là, vous savez, qui fait mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. How can you leave me on my own? When did you say that you're coming home? How can you leave me on my own? When you leave, I become a moron, a beer swilling, time killing moron. I surgically remove all of the green food from my diet. I know I should be reading, but I'm too lazy to try it. I keep the TV on all day to chase away the quiet. When you
of tea and eat too many biscuits. I think about going out, decide not to risk it. I look at naked ladies 'cause I'm too weak to resist it. When you
The Divine Comedy, How Can You Leave Me On My Own, avec cette Anne qui brille là juste derrière. Non, on va pas se laisser, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Alors on en profite.
Dans quel monde on vit ? L'été sur France Inter.
Bien, alors pour tous ceux qui auraient passé leur été dans une grotte sans aucun contact avec le vivant, sachez que c'est le moment où les auditeurs nous font ce drôle de cadeau de partager avec nous le souvenir d'un été, particulier, où quelque chose, quelque part, a basculé en eux, pour eux. C'est une rencontre, un paysage, un coup de foudre, c'est ce que vous voulez. En tout cas, vous nous appelez au 01 56 40 55 35. Surtout, vous nous dites tout. On aime beaucoup. Et avec Virginie, on démarre sur les chapeaux de roue.
Je m'appelle Virginie, j'ai 48 ans, j'habite à Saint-Maur-des-Fossés. Et moi, je voulais vous raconter l'été où je suis tombée amoureuse d'une moto, enfin de la moto ou des motos. C'était il y a 3 ans, hein, c'est ça, en 2014. Je suis allée dans une casse automobile parce que j'avais besoin d'un rétroviseur. Et là, à la casse, je tombe littéralement dans les bras du propriétaire de la casse qui m'installe sur sa moto et j'en suis plus redescendue de l'été. Comme c'était son métier, il venait souvent me chercher avec des motos différentes, mais il y en avait quand même une que je kiffais particulièrement. C'était une MV Agusta, elle était blanche et rouge, avec un arrière profilé, on aurait dit un petit cul de guêpe, elle était super belle. Évidemment, très puissante, un avion de chasse. J'aimais tellement la vitesse et les sensations que ça me procure, enfin j'aime toujours ça, que j'avais demandé à mon ami de m'attacher à l'arrière pour être dans le sens contraire de la route et pour avoir encore plus ces sensations de vitesse. L'été est passé, il n'a pas eu le temps de m'attacher, comme ça qu'on s'est séparés. Mais par contre, moi, je vais passer mon certificat pour conduire une 125 et depuis, je roule en 125. Donc pour moi, la moto, c'est vraiment super sexy. Et c'est vraiment une source de joie, de plaisir, que ce soit en tant que passagère ou même avec ma petite 125, ça le fait aussi. Voilà, et ben je vous souhaite un bon été à tous, à pied ou à moto.
Bel été à vous aussi, Virginie. Alors, à pied ou à moto, il y a des motards dans ce studio ?
Non.
Jamais ?
Non.
Jamais d'avis ?
Trop peur.
Bon, trop peur. Mmh. Alors, par contre, vous, Cathy, hier, votre été particulier, c'était un petit coup de minibus. Et ça ne vous a pas fait peur ?
Non, ça ne m'a pas fait peur. C'était l'été 1989, août 89, et on est parti 20 filles sur la route avec un travesti, un chanteur et un danseur et un chauffeur. Et donc une compagnie de music-hall avec des centaines de plumes de strass et tout ça. On a sillonné l'Allemagne qui était en train d'être bouleversée complètement par la chute du mur. Et on faisait 500 km par jour, un spectacle par soir. Et moi, j'ai découvert dans cette Allemagne bouleversée, j'ai découvert l'amitié. L'amitié féminine, parce qu'on dit tout le temps que les filles entre elles, ça se crêpe le chignon, c'est mauvais, c'est pas vrai. Moi, toutes mes camarades, collègues de music-hall, enfin celles que j'ai rencontrées sur cette tournée, il y en a énormément qui sont restées mes amies, qui m'ont vraiment aidée à me construire. Et tous les étés, depuis, je leur consacre un moment, une semaine, 2 semaines, et je vous aime les filles.
Et alors, l'objet qui se rapporte à cet été particulier que vous nous avez apporté ce matin,
alors
c'est
quoi ? Alors j'ai amené ma boîte à outils.
Elle est énorme.
Ouais, il y a un C et un Y, et c'est mes amis qui me l'ont offerte. Avant, on avait, dans les années 80, on avait des vraies boîtes à outils pour mettre le maquillage, les fossiles et tout ça.
Donc elle est jaune,
et
en plastique.
Voilà, et j'ai amené aussi mes derniers fossiles.
Ah, voilà. Les derniers que vous ayez portés ?
Non, ceux-là, c'est ce que j'aurais dû porter, mais comme j'ai arrêté, que je suis passée à la chanson ensuite et à la musique, et on m'a dit non, Cathy, sur scène, à l'Élysée Montmartre, mais pas les fossiles.
Mais c'est surtout qui paraît, vous le racontez, ça explose un peu la paupière quand même, le fossile, non ?
Ah bah,
pardon,
force,
pour cette question technique.
À force, hein, la colle à fossile, ça bousille. C'est pour ça que souvent, on n'aime pas être prise en photo sans les fossiles.
Et dans cette boîte à outils, il y a donc tout votre maquillage, il y a tout votre.
Voilà, tous les outils, hein, le pinceau. La houppette, les fossiles, la poudre, le rouge à lèvres. Et il y a un petit miroir. Et en fait, du coup, quand on est en tournée, eh ben, c'est une loge ambulante.
Eh ben, vous savez quoi, la loge ambulante, on va la retrouver et dans l'imaginaire d'Alexandre Comte en fin de semaine et sur Instagram, évidemment, hashtag dans quel monde on vit. Merci beaucoup Cathy Yerl et Manuel Brand d'être venus nous rendre visite.
Merci Julien, c'était un plaisir.
Eh ben, plaisir partagé. Votre article sous le truc en plume et ce beau portfolio est à retrouver dans le hors-série, de l'été du magazine Cosette. Un grand merci à vous également, Thierry Vautrillard. Je viens de me faire inviter au Moulin Rouge. J'ai tout gagné, moi, ce matin. Merci beaucoup. Mais je viendrai. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, toujours avec le même plaisir. D'ici là, vous podcastez sans modération sur franceinter.fr et vous restez là juste après le journal de 10h. C'est Laurent Delmas et Ciné qui chante.